Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur l'antenne de RTVFM. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos studios Lina, Céline et Soumia. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes étudiante en travail social à l'Institut méditerranéen de formation IMF Montfavet. C'est exact ?
C'est exact.
Voilà. Bah, aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir, Marlène, Baptiste et moi-même dans nos studios. Et vous allez pouvoir présenter le but de cette émission, c'est de présenter ce que vous faites, votre futur métier, de présenter l'IMF. Et pour cela, vous aurez les questions de Marlène, de Baptiste et de moi-même. Voilà. Je commence, Marlène, c'est parti.
Allez,
c'est parti. Donc, première question, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter, à nos auditeurs, nous présenter l'IMF?
Oui, alors l'IMF, Institut Méditerranéen de Formation, c'est notre école. Elle se situe à Avignon, à Montfavet plus précisément, mais son siège est à Marseille. Donc, Avignon est une antenne. Il y a une antenne à Arles aussi. Elle propose plusieurs formations financées, il me semble, par la région. Des formations en travail social du niveau 5 au niveau 1, normalement.
Et ta formation à toi, c'est quel niveau ?
Et notre formation, on est en niveau 3, donc formation d'éducateur spécialisé et d'assistante de service social.
Donc cet organisme IMF Montfavet existe depuis de nombreuses années, c'est quelque chose d'assez ancien comme institut ?
Tout à fait, ça a été créé par plusieurs personnes, notamment le maire adjoint de Montfavet et quelques formateurs qui sont encore avec nous.
Combien de, peut-être pas une question piège, mais combien de personnes sont actuellement scolarisées dans cette...
Environ 500 à Avignon.
Ah, ça fait quand même, c'est quelque chose d'assez conséquent.
Oui.
Et vous concernant, toutes les trois, mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous a fait choisir cet institut ?
Alors, il faut savoir c'est des formations sur concours, donc on passe des sélections, évidemment, donc ça dépend aussi, notre choix dépend aussi des sélections qu'on réussit. Maintenant, l'Institut de formation à Avignon propose des choses très intéressantes, notamment la formation sur le mode de l'alternance, donc avec beaucoup de stages qui sont très professionnalisants.
Et Céline et Soumia, qu'est-ce qui vous... Pareil, sur concours, comment vous avez fait pour choisir cet établissement ?
Sur concours, moi, c'est aussi parce que j'habite Carpentras, donc c'est pour des raisons de proximité géographique.
Oui.
Donc voilà, et j'ai passé qu'un seul concours, donc sur Avignon, je l'ai eu, et voilà.
Alors, vraiment pour préciser peut-être que juste un mot, que Soumia s'est fait assistante de service social.
C'est ça.
Et que Céline et Lima font...
Donc nous on est en formation donc éducatrice spécialisée
et sur combien d'années à peu près ?
Donc c'est une formation qui dure 3 ans, donc avec une grande partie théorique et une partie pratique. Donc c'est-à-dire nous avons pas mal de semaines de stages.
Alors les stages, c'est vous qui les choisissez ?
Tout à fait, oui. En fait on a des directives au niveau des devoirs en rapport avec ce stage, mais par contre les choix des stages restent un autre choix.
Et vous êtes obligé d'aller chercher vous-même ?
On cherche nous-mêmes. Alors il faut savoir qu'il y a quand même des critères à respecter sur une formation de 3 ans. Il faut qu'on réfléchisse à notre projet professionnel à long terme. Il faut qu'on valide certains publics, certaines modalités d'hébergement. Et du coup, on doit faire un stage dans le social, un stage dans le médico-social, un stage avec adultes, enfants, adolescents, un stage en hébergement ou sans hébergement. Voilà.
Et tout ça dans la région ?
Si possible.
Si possible. Si possible.
Alors pour nous, en formation d'assistante de service social, c'est un peu moins, on va dire, diriger les recherches de stage. Mais il faut toujours garder une logique, que ce soit sur le territoire, sur les services... pour lesquels on postule donc en stage pour notre projet de professionnalisation plus tard. Donc.
Et c'est en combien d'années le tien ?
3 ans. Pareil.
3 ans aussi, pareil.
Oui, oui.
À savoir que nous avons pas mal de cours en transversalité.
Oui.
C'est-à-dire que nous avons un tronc commun avec les assistantes de services sociaux et les éducateurs spécialisés. Donc nous avons des cours en commun, quoi. Pas mal, surtout la première année.
Et vos intervenants, ce sont des personnes qui sont déjà diplômées éducateurs, qui ont quel diplôme pour vous enseigner ?
Ça dépend, on a des intervenants de tous bords. Ce sont pour la plupart des professionnels de terrain, donc qui nous apportent des apports très très concrets sur la réalité du travail. Après, on peut avoir aussi des professionnels du secteur médical qui interviennent dans nos formations, des professionnels du secteur social, des professionnels des chefs de service, des éducateurs spécialisés, etc.
Très varié.
Mademoiselle, merci, on se fait une première pause musicale, on se retrouve juste après.
1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, your words safe and darling.
be. My head is running miles round in circles, and I try to finally delight in me. You said I could fix the broken in your heart. Your words say them, darling.
Écoutez RTVFM, la radio locale de Carpentras sur le 102.2.
Et oui, nous sommes avec Lina, Céline et Soumia de l'Institut Méditerranéen de Montfavet. Et nous parlons, mais c'est une émission spéciale qui vous est consacrée, mesdemoiselles. Et là, maintenant, c'est Baptiste qui va vous poser quelques questions.
Exactement, puisque vous êtes venu nous parler de votre projet de diagnostic territoire. Donc d'abord, ma première question, ce sera, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots qu'est-ce que c'est ce projet, qu'est-ce que c'est ce diagnostic territoire ?
Dans un premier temps, le diagnostic de territoire, donc, comme le disait tout à l'heure Lina, c'est une commande donc, de l'école. Donc, c'est concrètement un devoir qu'on a à rendre. Et donc, on doit choisir une ville où là, pareil, c'est pas du tout imposé par l'école. C'est à notre initiative. Et on doit définir l'identité d'un territoire donc, par son histoire, sa situation géographique, sociale, culturelle, économique. Et donc dans un second temps, on doit explorer des notions théoriques autour d'une problématique dégagée pendant notre analyse donc, de la première partie, avec tous les chiffres qu'on aura analysés. Donc voilà. Et pour conclure, on doit expliquer ce qu'on a compris en fait, de ces chiffres, de cette problématique. Et dégager des propositions d'action pour y remédier.
Et donc, vous avez décidé de choisir la ville de Carpentras. Pourquoi avoir choisi cette ville ?
Alors, c'est une ville, en fait, que moi, j'y vis depuis très longtemps. Lina y a été scolarisée. Céline vient d'y emménager. On a d'autres personnes de notre groupe qui connaissent pas du tout la ville ou qui ont des représentations sur la ville sans être réellement fondées. Et donc, on trouvait intéressant de choisir une ville où chacune d'entre nous avait une vision différente. Et aussi, c'est parce qu'on cherchait une ville en fait de densité moyenne, parce que c'était plus pratique pour le diagnostic. Donc, voilà, on a choisi Carpentras.
D'accord. Et concrètement, de ce diagnostic, il en est ressorti des chiffres, peut-être que vous allez nous donner.
Oui, donc en fait, Carpentras, on s'est basé sur des chiffres de l'INSEE principalement. Donc des chiffres de 2012 qui n'ont pas été réactualisés, mais qu'on trouve quand même assez pertinents. Donc Carpentras, en 2012, c'est une ville qui compte 28 520 habitants, avec une forte densité moyenne, donc de 752,1 habitants au kilomètre carré, donc contre 153,10 en Vaucluse. Donc il y a une différence assez importante à ce niveau-là. Et Carpentras est divisé en 9 quartiers. Donc il y a la zone rurale nord, la zone d'activité Carpent Sud, la Quintine, la Roseraie à Queduc, l'Aigle Pouduplan, zone rurale sud, zone périphérique urbaine, centre-ville et Amandier. Donc parmi ces 9 quartiers, il y a 4 quartiers qui sont définis comme prioritaires donc par le contrat de ville 2015-2020. Donc c'est les quartiers de la Quintine, Ville-Marie, la Lègue, Pouduplan, Centre-Ville, Amandier-Éléphant.
Comment va-t-il, pendant que vous regardez un petit peu pour vos chiffres, par quel bout vous avez pu commencer ce diagnostic? Vous avez commencé par quoi d'abord?
On a commencé par les chiffres. On a commencé par établir en fait un diagnostic de la situation historique, la situation géographique, la situation économique. Et avec ces chiffres-là, qui ont pu être comparés au niveau départemental et national, on a vu qu'il y avait des différences, des écarts. Et par ces écarts, on a essayé de les mettre en lien pour en sortir finalement une question sociale, une question qui regroupait toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer sur le territoire de Carpentras.
Ces chiffres, vous les avez bien sûr internet, mais est-ce que vous avez aussi, vous êtes allé aussi vers la commune, vers la mairie qui a pu
bien
vous fournir
sûr.
Aussi
oui. Bien sûr, la commune,
un petit peu plus.
On a rencontré donc un collaborateur du maire qui nous a qui a eu un entretien d'une heure et demie avec nous, qui a répondu à toutes nos questions et qui nous a par la suite renvoyé un dossier avec les faits et chiffres constatés par la mairie en 2015. On a aussi le dossier de la Cove qu'on a récupéré, qui est un apport important pour notre dossier aussi. Voilà, on a rencontré pas mal d'acteurs sur le territoire de Carpentras nous ont permis de...
On a aussi rencontré, moi et Céline, le service habitat-logement donc de Carpentras, où là aussi, on a eu pas mal d'informations sur...
Qui vous ont permis donc de travailler sur votre projet.
C'est ça.
Mesdemoiselles, on s'absente encore un tout petit peu pour une nouvelle petite pause, et puis on revient sur le sujet.
Now.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.
Voilà, mais nous parlions de votre diagnostic, mesdemoiselles, le diagnostic de territoire, et on aimerait en savoir quand même un petit peu plus. Alors, vous avez peut-être travaillé tout ensemble, mais peut-être certaines sur certains domaines. Alors, est-ce que, voilà, peut-être quelqu'un qui pourrait nous répondre, peut-être Soumia, nous parler un petit peu de son domaine?
Oui, c'est ça. Donc, moi, je me suis un peu penchée sur le domaine du logement, et du coup...
Votre constatation sur le logement, qu'est-ce que vous avez pu en retirer de cette étude sur Carpentras?
On s'est concentré sur le centre-ville en fait de Carpentras, beaucoup, nous, qui est déjà très avec un territoire quand même assez large, le centre-ville. Donc on a pu en tirer qu'il y avait en fait au centre-ville de Carpentras énormément de logements insalubres et inversement des logements très luxueux. Alors, dans le centre-ville de Carpentras, apparemment, il n'y aurait pas de juste milieu.
Est-ce que le PNRQD, le plan de requalification des quartiers, je suppose que vous l'avez abordé aussi, est-ce que justement il y a une tendance, un changement, est-ce que la tendance est en train de s'inverser justement par rapport au logement insalubre?
On peut voir toutes les rénovations qui sont en train de se faire au centre-ville de Carpentras. Donc oui, apparemment, les associations œuvrent pour pouvoir justement améliorer cela, quoi, et puis essayer de qu'il y ait une meilleure parité, on va dire, au niveau des logements, quoi.
Alors, la requalification des quartiers est en marche déjà depuis pas mal d'années sous les différents mandats, dont le mandat de ce maire actuel. Est-ce que vous pensez que cette requalification, est-ce que vous avez pu le constater dans vos chiffres, est-ce que la jeunesse recommence à investir un petit peu le centre-ville ou est-ce que c'est encore trop timide?
Alors, nos chiffres, en fait, les chiffres, ils datent de 2012. Hein, c'est les chiffres de l'INSEE, donc on n'a pas de chiffres par rapport à ça. Par contre, effectivement, la jeunesse, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'investir le centre-ville parce qu'on a quand même beaucoup de lycées, de collèges aussi, et entre midi et deux, il se trouve qu'il y a des milliers
tout
de jeunes.
Je parlais plus précisément de l'habitat.
Après, au niveau de l'habitat, on a pu, lors de nos entretiens avec les habitants, donc dans la rue, on a pu constater qu'il y avait de réelles difficultés encore à se loger correctement et dignement, finalement. Après, effectivement, il y a ces programmes de réhabilitation qui sont en route. Je pense qu'il faut aussi savoir éviter l'immédiateté et voir sur le long terme. Et sur le long terme, on espère tout autant que les Carpentraciens que des améliorations seront effectives.
Sont effectifs sur le logement. Mmh. En dehors du logement, d'autres domaines?
Alors, il y a le domaine de l'insécurité qu'on a un petit peu abordé, en fait, qui est venu à nous tout simplement parce que nous, on n'avait pas du tout conscience de ce sentiment d'insécurité. Je dis bien sentiment, à différencier de la véritable insécurité. Alors, c'est vrai que sur Carpentras, on a constaté... Nous, on s'est baladé dans tous les quartiers. On a essayé d'interroger un maximum de gens de tous les quartiers. Et qu'ils soient du centre-ville, du Pou-du-Plan, des Amandiers ou de Ville-Marie, c'est quelque chose qui revient énormément. Carpentras, une ville où on sort pas le soir parce que ça fait peur. Maintenant, on a aussi eu l'occasion de sortir des chiffres, pour le coup, de rencontrer également la police municipale, un commandant de la police municipale. Le constat, c'est que Carpentras n'est pas une ville plus insécure qu'une autre, plus criminogène qu'une autre.
Te reprendre, Lina, le taux de criminalité justement est très faible par rapport.
Très bas.
Oui, est très bas par rapport à d'autres villes qui ont le même nombre d'habitants.
Tout
est bien en dessous de la moyenne.
Tout à fait. Et du coup, on s'est posé la question ensemble de savoir à quoi était dû ce sentiment d'insécurité. Alors, on a quelques pistes qui sont pas forcément représentatives et exhaustives, mais on a constaté quand même un fort investissement de l'espace public par les hommes, ce qui peut éventuellement effrayer une partie de la population. Après, les quartiers un peu décentrés sont des quartiers qui sont pas investis par exemple la population du centre-ville ou des quartiers plus plus réputés sécures.
Oui.
Et c'est des quartiers comme on les connaît pas qui sont inquiétants.
Qui sont inquiétants effectivement. Mais encore une fois, c'est le climat d'insécurité, mais pas pour autant l'insécurité. Je venais de le souligner, les chiffres de la délinquance sur Carpentras sont plutôt plus bas que le restant du département.
Tout à fait.
Alors moi, il y a une petite question qui m'intéresse. C'est ça fait combien de temps que vous avez commencé ces petits entretiens, ces petites interviews? Et comment vous avez procédé?
Alors ça a été compliqué. Les gens sont pas forcément, ont pas forcément très envie de raconter leur vie. Donc nous, on est parti sur la stratégie des gens au café.
Ah,
d'abord.
Café, d'accord.
Donc les gens au café, ils répondent plus facilement parce qu'ils sont posés, ils ont le temps. Après, on est aussi allé dans les quartiers, aux Amandiers, je pense, où il y avait pas mal d'enfants avec qui on a pu partager des bons souvenirs.
Vous avez peut-être une anecdote avec les enfants.
Oui, notamment une.
Oui,
peut-être Soumia.
Oui, on a joué les super-héros à débloquer un ballon qui était coincé dans un arbre. Il y avait une collègue à nous qui est en formation d'éducatrice spécialisée. Pour le coup, elle était sur le terrain. Et...
Ça permet de lancer la discussion. Mesdemoiselles, je vous interromps deux secondes. On se fait une nouvelle petite pause et on revient après sur votre sujet.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
Stop the feeling. See you.
le Ventoux à sa radio, RTVFM.
Et bienvenue aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur le 102.2. Nous sommes en compagnie de Lina, Soumia et Céline qui ont réalisé un diagnostic de territoire de la commune de Carpentras dans le cadre de leur formation de niveau 3 à l'IMF Montfavet.
Alors Soumia, tu nous parlais tout à l'heure, il y en a une des trois qui disait que vous aviez débriefé un petit peu dans les cafés avec les personnes. J'aimerais savoir s'il y a d'autres lieux où vous avez vu et rencontré d'autres personnes.
Oui, bien sûr. Donc dans un premier temps, on a commencé par le marché de Carpentras, donc qui est un peu une institution à Carpentras, qui est très investi par la population, et on a un peu trouvé la stratégie d'aller dans les endroits où, qui concentraient pas mal de personnes. Et donc, on a établi un petit questionnaire qui restait quand même assez large pour un peu avoir les premières impressions des habitants, donc comment ils voyaient leur ville. Et donc voilà, on a fait des questions un peu ouvertes qui pouvaient laisser les personnes répondre comme elles le voulaient.
Alors dans un premier temps, vous avez écrit un questionnaire, vous saviez déjà les questions que vous alliez poser.
On a d'abord écrit un questionnaire, comme le disait Soumia, très large, et après il a fallu effectivement travailler sur le questionnaire qu'on allait utiliser pour nos pré-enquêtes, donc en rapport avec notre thème, où il faut, on a eu bien sûr des cours théoriques hein, au milieu de notre investigation de terrain, et dans nos cours théoriques on nous a appris à monter un questionnaire directif, non directif, voilà, et essayer d'être le plus objectif possible pour avoir les réponses les plus ouvertes possibles.
Alors il y a peut-être des petites anecdotes avec les rencontres avec nos concitoyens.
Oui, bah, déjà au marché c'était un peu compliqué dans un premier temps de commencer parce que les gens étaient quand même
méfiants.
Non, pas du tout méfiants. C'était voilà, ils étaient dans le marché, ils faisaient leurs courses. Bon, ils n'avaient pas forcément le temps. Et puis à la fin de la matinée où les gens étaient plus là pour discuter entre eux, tout ça, c'était beaucoup plus ouvert. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. On a pu parler avec des commerçants. On a pu aborder des gens qui étaient là entre amis, donc des groupes où c'était aussi intéressant donc d'avoir une discussion. Et souvent, on nous a dit que c'était que ça leur avait apporté de pouvoir réfléchir en fait sur leur ville, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde se pose comme question au quotidien. Et donc même pour eux, au-delà de notre démarche à nous, ça les a fait réfléchir quelque part sur leur ville.
Sur leur ville, est-ce que vous avez dû adapter à un moment donné le questionnaire par rapport à celui que vous aviez prévu en arrivant sur le terrain ?
Ben nous, justement, notre volonté a été de partir dans le questionnaire non directif. Donc, c'est-à-dire, en fait, de laisser libre... Enfin, on a fait de ce moment-là, en fait, un moment libre pour la parole de l'autre, en fait, et des habitants de Carpentras, quoi.
Et vous avez vous avez sélectionné les personnes par rapport à vos personnalités.
En fait, on y allait au hasard. On voyait une En fait, on essayait quand même de pas prendre des personnes qui étaient en groupe, parce que c'est plus compliqué, quoi.
Compliqué.
Après, voilà, les gens ont plus de difficultés à parler quand il y a du monde. Donc, on allait vers des gens qui étaient seuls ou à deux en général. Et il n'y avait pas forcément d'a priori. On y allait un peu au hasard, quoi.
On a essayé quand même de toucher toutes les classes de la population carpentracienne, toutes les origines, toutes les
hommes, femmes,
tous les genres, effectivement, même les plus jeunes, les plus âgés, etc., pour vraiment avoir un panel représentatif.
Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Le marché de Carpentras, c'est, on va dire, un des rares derniers endroits où justement vous pouvez retrouver toutes ces différentes classes qui se retrouvent encore ensemble au même endroit. Et donc pour vous, je pense que c'était aussi une bonne chose, puisque vous avez pu interroger des gens vraiment différents, à la fois socialement, culturellement, etc. Vous avez pu avoir différents ressentis.
Tout à fait, c'était un moment très riche. Le marché de Carpentras, c'est vraiment comme disait Soumia, une institution dans la ville de Carpentras, et c'est le lieu de brassage de toutes les populations, et ça nous a permis de rencontrer peut-être des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs et qui se sont gentiment ouverts à nous. Et voilà.
Avant qu'on fasse une nouvelle pause, des surprises dans les réponses, une comme ça ou deux, quelque chose qui a pu vous déstabiliser ou faire sourire ou...
Nous déstabiliser très honnêtement beaucoup. Il faut savoir, quand on fait un travail comme le nôtre, on est face à toutes sortes de personnes, et il faut être à l'écoute sans jugement de valeur aucun, et ça peut être très déstabilisant parfois. Je pense à des propos qui sont parfois, alors ça reste occasionnel, mais qui sont parfois peu tolérants,
Politique, voilà, des choses
très politisées, ouais. Évidemment, et dans quelque chose de l'ordre de la peur de la différence, on va pas se le cacher, et ça a pu être très déstabilisant pour nous sept.
D'accord. Mesdemoiselles, merci, on se retrouve dans 2-3 minutes.
D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui part. Ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Are we awake? Are we awake? Où sont nos je t'aime? Are we awake? Are we awake? Time to wake up. Faut-il de refrains utiles? Combien de chansons dans les airs? Vie facile, sortir de la ville et s'éveiller vers la mer. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller. Sleep all day, gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find a mission. Some new evening.
Le Ventoux à sa radio, RTVFM.
Alors, toujours en présence de Soumia, Céline, Lina, qui nous disait, nous chantait les mérites de notre Carpentras, c'est-à-dire du marché. Alors, elle posait beaucoup de questions, mais quelles questions elle posait?
Alors, on est parti sur des questions autour des problématiques qu'on avait relevées sur nos chiffres, donc des questions sur l'implication des gens dans la ville de Carpentras. Sur les associations, ce que les gens pensaient des associations et du domaine associatif à Carpentras, sur qu'est-ce qu'ils pensaient du mélange de populations à Carpentras, sur le logement évidemment, sur les établissements scolaires aussi, parce qu'on a noté des chiffres assez alarmants en termes de formation à Carpentras. Donc voilà, et puis on finissait généralement sur une question plus générale: que pensent les gens de Carpentras?
Alors ma question est: que pensent les gens de Carpentras?
Alors, moi, je dirais que quand même, les Carpentraciens ont une image, on va dire, plutôt négative de leur ville. Parce que nous, on a d'un côté ce que nous disent les associations, ce que nous disent la mairie, ce qui est mis en place. Et on a le retour, en fait, de la population. Pour certaines personnes qui ne pouvaient même pas nous citer une seule association de la ville, qui nous parlaient du centre-ville qui se dégrade. Mais nous, on voyait bien qu'il y avait quand même de la rénovation. Et puis, on s'est entretenu avec le service habitat-logement et rénovation urbaine, comme je le disais tout à l'heure. Et on a bien vu qu'il y avait quand même des projets qui étaient en cours et qui essayaient d'améliorer les conditions donc du centre-ville. Enfin, et du coup, il y avait quand même ce paradoxe entre ce que nous disaient les personnes, qui était quand même, en général, plutôt négatif, je dirais.
Alors, ben là, bien sûr, vous établissez des questions, vous avez des réponses. Mmh. Est-ce que vous avez fait un bilan par rapport à ces réponses-là ?
Alors, le bilan, on est en train de le faire. Après, des premiers questionnaires, on est parti sur une question de départ, en fait, qui nous a après guidé pour nos autres questionnaires. Et la question de départ, c'est...
Donc, qu'est-ce qui influe sur la mixité sociale ? Parce que tout à l'heure, on parlait du marché de Carpentras, où c'est un des rares lieux qui concentre, en fait, tous les bords de toutes les couches sociales, en fait, de Carpentras. Et ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres quartiers. Enfin, le marché, c'est un peu différent, mais dans d'autres quartiers, c'est assez, on va dire, communautaire.
Oui.
Donc, on s'est posé la question...
Vous avez un début de bilan sur la réponse ?
Déjà, dans un premier temps, peut-être qu'il serait judicieux peut-être de définir ce qu'est la mixité sociale, parce que même nous, on a dû faire des recherches quand même pour savoir réellement, aller plus en profondeur sur ce qu'est réellement la mixité sociale. Donc, en fait, la mixité sociale est un fait. Donc, elle désigne la coexistence dans un lieu défini d'un groupe de personnes aux caractéristiques sociales diversifiées, donc par l'âge, le statut professionnel, l'habitation, l'éducation, par exemple. Et dans un discours favorable...
Une petite toux, elle revient.
Dans un discours favorable, cette idée donc de mixité permettrait une cohabitation harmonieuse, salvatrice, qui correspondent aux valeurs françaises d'égalité et de fraternité si souvent mises à l'honneur dans notre pays.
Mmh.
Donc, en fait, on peut se rendre compte que justement, tous les modes de fonctionnement sociétal, que ce soit le nôtre ou ailleurs, il y a des bienfaits et des inconvénients. Par exemple, concernant la mixité sociale, on peut s'apercevoir que pour certaines personnes, c'est une richesse. Donc, de mettre en commun des valeurs, des traditions, de la culture, et même la religion.
La religion.
Et à contrario, pour d'autres personnes, c'est un inconvénient. Et chacun appartient à son pays. Et l'homme ne serait pas apte à se mélanger. Donc en fait, on a pu voir, il y a ces deux courants de pensée, en fait.
Vous êtes arrivé à faire certaines statistiques ?
Notre travail était pas vraiment de faire des statistiques, parce qu'on a bien conscience que sur un mois de temps... Malgré les nombreux questionnaires pratiqués, on n'est pas en mesure de donner un rendu représentatif et objectif au maximum. Du coup, par contre, pour les pistes autour de la mixité sociale, on s'est rendu compte que Carpentras avait quand même des ressources, des manques certes, mais aussi des ressources au niveau du patrimoine architectural, par exemple, au niveau de tout ce qui est mis en place culturellement par la commune, au niveau justement du brassage de ces populations, qui est quand même une richesse. Voilà.
Au niveau du terroir aussi.
Au niveau du terroir, bien sûr. Et après, du coup, les manques, on verra pour nos propositions.
On va aborder tous ces thèmes, donc le terroir, le patrimoine que vous venez d'énumérer. On se fait une nouvelle petite pause, on aborde de suite après.
Don't you fight it. un peu comme en emotion. Can nobody feel nobody like we do right now? I lead the way, I gotta say,
RTVFM, l'esprit jeune.
Toujours dans cette émission spéciale sur RTVFM avec Lina Céline Soumia de l'IMF Montfavet. Et nous étions en train de parler des ressources de Carpentras. Est-ce qu'on peut aborder peut-être le terroir, la culture? Voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre point de vue.
Alors, au niveau, je laisserai Céline parler du terroir. Moi, je vais parler de l'apport culturel, architectural qui ramène quand même une grande masse de touristes. Touristes qui font marcher quand même un petit peu encore la ville de Carpentras. C'est vrai qu'on a une ville très très riche historiquement, avec un patrimoine, comme je disais, architectural extrêmement dense. Hein. On a un centre-ville qui quand même fait partie des centres-villes anciens qui ont réussi à être réhabilités. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un potentiel derrière. On a aussi beaucoup de périodes de migration qui ont apporté beaucoup de richesses, notamment Carpentras. C'est la ville où il y a eu la première synagogue en Europe. Donc c'est quand même quelque chose de gros qui peut ramener des gens aussi. Donc ça, c'est toute une richesse en fait dans la ville que les Carpentrassiens ne voient pas forcément parce qu'ils sont peut-être pas sensibilisés à tout ça. Mais voilà, la ville de Carpentras, c'est pas tout noir. Au niveau du terroir, du coup, Céline peut nous en dire plus.
C'est vrai que quand on pense à Carpentras, on pense de suite à la fraise de Carpentras, forcément.
Et le berlingot.
Et le berlingot.
Et la truffe.
Et les truffes. Et les truffes. Oui, évidemment. Mais bon, c'est vrai que moi, après, je suis vraiment... J'adore la fraise, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ce qui m'est venu en premier.
Tu es plus près du melon, je pense, à Cavaillon.
Oui, certes, mais... non, je suis carpentracienne maintenant, depuis peu, mais... c'est vrai qu'aussi, dans mes représentations, quoi, de Carpentras, je pensais aussi au Ventoux, quoi. C'est quand même un endroit à part, quoi, en France.
Vu dans le monde entier, oui, grâce au cyclisme.
Tout à fait. C'est un lieu de passage, du coup, hein, Carpentras, pour aller au Mont Ventoux. On passe à Carpentras, donc c'est vrai que...
À savoir que c'est une des... Fait que c'est réputé, parce qu'en fait, c'est une montagne qui est isolée. Elle n'est pas dans une chaîne de montagnes, mais c'est...
Non. Mais non, elle n'est pas dans une chaîne de montagnes. Ce sont les pré-Alpes, je crois qu'on ne fait pas la liaison, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. Ouais. Et donc, c'est quand même assez rarissime, mais c'est pour ça que le Ventoux est réputé ainsi aussi. Et donc, évidemment, le Tour de France, quoi, qui est
mythique et qui est vu aux États-Unis.
C'est ça, et qui emmène des touristes du monde entier, notamment sur la ville de Carpentras aussi...
Et ils visitent et ils achètent des maisons ici, voilà. Et ils viennent passer leurs jours paisiblement dans le sud et en Provence.
Et à savoir aussi que Carpentras est une ville agricole. L'agriculture est à une place très importante à la ville de Carpentras.
Une fois qu'on a parlé de terroir, on parlait culture, là je reviendrai sur Soumia tout à l'heure, sur le fait que les Carpentrassiens, quand vous les interrogez sur le marché, sur différentes questions... On a l'impression qu'il y a un décalage entre la réalité de ce qui est organisé à Carpentras et le ressenti des Carpentrassiens. Pour vous, c'est dû à quoi ?
Mais moi, je dirais que moi-même, Carpentrassienne, je ne m'investis pas réellement dans la ville. Je découvre des choses en faisant ce diagnostic. Moi, j'y vis depuis très longtemps. Et même des associations que je ne connaissais pas du tout, alors que je me tourne quand même vers une carrière sociale et c'est ce qui m'a amené à me poser des questions aussi sur moi-même. Et je trouve que ce communautarisme, cet enclavement j'ai l'impression que chacun reste de son côté, reste avec les personnes qui lui ressemblent. Et du coup, ça nous empêche d'aller vers même des manifestations culturelles, parce qu'on va se dire que c'est pour telle partie, voilà, pour tel public, ou il y a tel public, donc non, je n'irai pas, je ne me mélange pas à ça. Enfin, j'exagère hein, quand je dis ça, mais je pense que c'est quand même lié.
C'est lié par le côté, voilà, ce côté communautariste qui est peut-être trop présent sur Carpentras, où les gens ont trop tendance... Oui, Baptiste.
Justement, ce communautarisme, il a lieu quand même un peu partout en France, on peut penser. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'à Carpentras, il est plus présent, ou justement, à travers vos recherches, vous avez pu remarquer qu'au final, il est présent comme ailleurs ?
Je pense que c'est assez représentatif, moi, de mon côté, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je pense que c'est assez représentatif, que ce soit au niveau, de par nos recherches aussi, que ce soit au niveau départemental, régional ou encore national.
Oui, c'est un communautarisme qui n'est pas spécifique à Carpentras. Après, c'est vrai qu'on est dans un département, par contre, qui, où on relève beaucoup de sentiments d'appartenance qui ferment peut-être les gens à d'autres cultures. Mais c'est quelque chose qui est national et on n'est pas dans la ville la plus communautaire de France, hein, loin de là.
De France. On se fait une nouvelle pause, après on va parler métier, on va parler de votre métier, ouais. Puisqu'il faudrait quand même qu'on aborde, ben voilà, vous êtes là pour ça aussi. À tout de suite.
Collé sous mes bras, ton aura, ton odeur, imprégné sur moi. La douceur de ta peau effleurer mes doigts.
Something crazy occurs every time you touch me, touch me. It's like I lose control every time you're with me, with me. So you know me, I forgive it all. Can't fight this, you're feeling up, you're free to go. Like a sun on me, heat up. Baby, give me good tonight. Touch me, yeah. It's like I lose control every time you're with me, yeah. So you know me, I forgive you too. Can't fight this, you're feeling up, you're free to like a sun on me, heat up. Baby, give me good tonight.
Écoutez RTVFM, la radio locale de Carpentras sur le 102.2.
Et maintenant, nous allons parler métier avec nos trois invités, une assistante de service social et deux futures éducatrices spécialisées. Qui commence pour parler de son métier, futur métier?
Alors moi, donc j'ai choisi de commencer une formation donc d'assistante de service social. Donc l'assistante de service social, c'est donc l'assistante sociale, hein, anciennement appelée comme ça. Et donc on est emmené à accompagner donc les personnes qui le souhaitent dans leur démarche administrative, dans leur insertion sociale.
Et ça se passe sur 3 ans.
C'est ça.
Alors là, tu es en première année. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en première année, hormis ce que vous êtes en train de faire là toutes les trois?
Alors en première année, on a pas mal de cours théoriques. Donc c'est l'année qui concentre le plus de cours théoriques. Donc c'est quand même assez important. Dire pour la pratique professionnelle plus tard, d'avoir quand même ce bagage. Et on a aussi on a 12 semaines de stage, donc sur la première année. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez libre au niveau des choix des stages. Donc on peut déjà avoir une première idée du métier, parce que on commence la formation en n'ayant que des représentations sur ce qu'est le métier, on ne peut pas réellement savoir. Et on peut se renseigner sur Internet, sur des sites, ou même sur le site de l'IMF, savoir en quoi consiste la formation.
Est-ce qu'il y a un concours pour entrer dans...
Oui, donc il y a un concours écrit dans un premier temps. Donc voilà, et ensuite il y a un concours
qui se passe dans la région, par les écoles là où vous êtes, ou...
Oui, donc sur Avignon.
Et il faut s'inscrire quand pour pouvoir passer cette première examen ?
Il faut s'inscrire avant, en début d'année scolaire, il me semble, hein, entre septembre et novembre.
C'est ça. Et les concours ont lieu en début d'année, on va dire vers février-mars. Il me semble, mais c'est ouais.
En tout cas, pour le concours écrit et pour l'oral, ça se situe au mois de mai.
C'est un tronc commun, toutes les trois, là parce que là,
non.
Il y a...
Non, c'est différent selon les formations.
Et cet examen, vous pouvez le préparer en école privée aussi, de votre côté? Ça se passe où, cette
préparation? On peut le préparer. Donc, l'IMF propose une préformation,
plus cette année.
Ah. Proposait une préformation qui a bien fonctionné, donc ça marchait. Et puis, il y a pas mal d'écoles sur Avignon. Il me semble qu'il y a Saint-Jean qui propose une prépa, qui n'est pas une préformation, mais une préparation aux concours sociaux. Et puis après, on peut aussi le préparer chez soi, quand on est très motivé. Et puis, ce qui me paraît intéressant, moi, avant de passer les concours, c'est quand même qu'on a une majorité des élèves qui rentrent en formation sociale, qui ont un petit bagage professionnel. Et donc, essayer de cumuler un peu des expériences professionnelles dans ce secteur-là, ou dans l'animation, ce qui est plus accessible quand on n'a pas de diplôme ou autre que le BAFA. Voilà, dans l'animation, en tant qu'AVS aussi, parce qu'il y a le métier d'AVS à l'école, donc les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent des enfants ou des adolescents en situation de handicap, donc ils sont là pour compenser leur limitation d'activité. Donc ça peut être quelque chose de formateur et qui aide à préparer le concours. Après, ce qui intéresse aussi, ce sur quoi il faut se former avant le concours, c'est surtout l'actualité. Moi, on m'a dit, quand je préparais mon concours, l'actualité, faut être au fait de ce qui se passe dans le monde et avoir un petit regard critique.
Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau en français, en maths?
Il faut avoir son bac. Il faut avoir son bac pour passer les diplômes de niveau 3, donc éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur jeunes enfants. Il faut être titulaire du baccalauréat.
Après, qui est du niveau 4, le baccalauréat du niveau 4.
Après, on peut passer les concours de moniteur-éducateur, par exemple, ou d'AMP, qui, eux, ne nécessitent pas forcément l'obtention du baccalauréat.
Alors, quelques petites précisions pour les deux éducatrices. On fait ça dans quel but?
Sauver le monde.
Est-ce que pour les enfants, par exemple, il y a une spécialisation?
Non, en fait, on est sur des formations, donc éducateur spécialisé. C'est vrai que tout le monde dit, spécialisé en quoi? Donc, on part du principe qu'en fait, on est spécialisé dans l'éducation. C'est l'éducation qui est spécialisée. Après, nous, les publics avec lesquels on va travailler, ça va aller de 0 à 177 ans. Les publics, principalement, c'est considéré, c'est dit, je crois, sur le site de l'ONICEP d'ailleurs, des publics en grande souffrance. Donc, ça peut être des souffrances autant psychologiques que physiques, que morales, etc., etc. Donc, on a des personnes en situation de handicap, mental ou physique. On a des personnes en difficulté sur plein de niveaux, logement, toxicomanie, prostitution, etc.
Ça peut partir de la personne qui est en situation de polyhandicap, à la psychiatrie, aux enfants en rupture familiale, aux personnes SDF, par exemple.
Voilà. Un dernier mot sur vos professions.
C'est pas un don, et il faut être, il me semble, équilibré psychologiquement avant de s'y engager quand même.
Et pour moi, c'est donc le métier d'éducateur spécialisé, c'est avant tout, quand on pratique ce métier, c'est avant tout un mode de vie.
Et pour toi?
Et moi, je dirais que la formation, faut s'y préparer aussi psychologiquement, parce que on est en constante déconstruction et construction de soi-même. Donc voilà, faut pas s'attendre à juste écouter les cours.
Merci les filles,
voilà.
merci à vous.
Merci bien. Mais nous recevions Lina Soumia, Céline, étudiante à l'Institut méditerranéen de formation de Montfavet. Vous êtes venue nous présenter votre diagnostic de Carpentras dans le cadre de votre formation. Ouais. Merci à toutes les trois. Merci Marlène.
Merci à vous.
Merci Baptiste. Merci. Vous pourrez écouter cette émission en podcast sur le www.rtvfm.net. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu l'écouter quand elle passe, si vous l'avez pas écouté dans la totalité, n'hésitez pas, comme toutes les autres émissions qui se passent sur RTVFM. Moi, j'ai le technicien qui nous fait signe. Merci en tout cas. Marlène, peut-être un dernier mot. Non, je te vois faire des grands signes, Marlène.
Merci à toutes d'être venues. Merci à vous. Willy. Merci Alain. Merci Baptiste. Merci toutes les trois d'être là.
Bonne chance.
Avec votre
merci
sourire que vous ne voyez pas. Des trois beaux sourires et trois futurs diplômés d'ici 2 ans maintenant, ouais, puisqu'elles sont en première année. Vous les retrouverez peut-être sur le marché un de ces jours.
Très bonne chance à toutes les trois. Merci beaucoup.
Merci,
en tout cas.
Au revoir.
Merci, au revoir.